On voit tout ça dans ce journal, dans le journal. Maëlle Laurent, bonjour.
Bonjour Karine et bonjour à tous.
On commence donc avec les tensions commerciales qui pèsent toujours sur les marchés.
Et oui Karine, Donald Trump persiste et signe dans sa stratégie vis-à-vis de la Chine. Le président américain a défendu ce week-end les nouvelles surtaxes qu'il veut mettre en place au 1er septembre sur 300 milliards de dollars d'importations chinoises. Alors ce sont des surtaxes qui vont concerner des biens de consommation et qui pourraient coûter aux Américains en moyenne 200 dollars par an et par foyer. C'est ce qu'on apprend des résultats d'une étude d'Oxford Economics. Alors Donald Trump accuse en particulier Pékin de dévaluer artificiellement sa monnaie, une monnaie chinoise qui justement continue à dévisser face au dollar et qui a touché ce matin un plus bas historique depuis 9 ans. Les détails avec Guillaume Paul.
La banque centrale chinoise est-elle intervenue pour dévaluer le yuan ? Pour les marchés, c'est plus que probable. Il est vrai que dévaluer la devise permet à la Chine d'atténuer l'impact des surtaxes américaines en rendant ses exportations encore plus attractives. Une attitude qui tranche avec la stratégie en vigueur ces dernières années qui consistait plutôt à stabiliser le cours du yuan pour protéger ses réserves de change et empêcher d'importantes sorties de capitaux. Pour beaucoup d'analystes, c'est donc la confirmation que les relèvements de douanes américains pénalisent vraiment l'économie. D'autres rappellent que jusqu'à présent, les Chinois avaient toujours juré qu'ils ne dévalueraient pas, histoire de ne pas compromettre les négociations avec les Américains. Le fait qu'ils s'y soient résolus après la dernière offensive de Donald Trump est peut-être le signe que les Chinois, cette fois, ne croient plus du tout à la possibilité de conclure un accord avec les Américains. Rien n'indique donc qu'ils ne laisseront pas filer davantage le yuan encore pour soutenir leur croissance, mais au risque de crisper encore plus les relations avec Washington.
Et Karine, vous en parlerez dans quelques instants avec votre invité. Alors, ces tensions commerciales et monétaires avec les États-Unis pèsent sur l'activité des services en Chine. La Chine affiche en effet son plus faible rythme de croissance dans les services depuis 5 mois. C'est ce que révèlent les chiffres de l'indice PMI publié ce matin pour le mois de juillet. Des chiffres qui également ont été publiés pour la France, où le rythme de croissance a également ralenti le mois dernier après 3 mois de hausse. Cette croissance de l'activité en France s'accompagne d'une amélioration de la situation de l'emploi et du renforcement de la confiance des chefs d'entreprise.
Et tous ces chiffres, les indices PMI, les chiffres sur le yuan, justement, on en parlera avec notre invité, le chef économiste d'Aurel BCG, Christian Parizeau, dans une demi-heure. Sinon, Maëlle, dans le secteur automobile, à présent, je disais tout à l'heure, Renault et Nissan qui seraient en discussion pour remettre à plat leur alliance.
Effectivement, Karine, c'est un nouvel épisode dans le feuilleton qui oppose les deux partenaires, notamment depuis l'affaire Ghosn. Et cette renégociation de l'alliance, Laura comment ? Si elle a lieu, elle pourrait ouvrir la voie à de nouvelles discussions entre Fiat et entre Renault et Fiat Chrysler cette fois.
Oui, exactement. Le projet de fusion de Renault avec Fiat Chrysler pourrait de nouveau être sur les rails. Selon des informations du Wall Street Journal, Renault et Nissan ont fait un pas en cette direction en décidant de revoir les grandes lignes de cette alliance, vous le disiez. Le groupe japonais tente de corriger les désaccords et d'apaiser les tensions qui avaient conduit à l'avortement du projet en juin. Alors pour rouvrir la porte aux négociations, Nissan souhaiterait rééquilibrer ses relations avec Renault. Renault devrait ainsi réduire sa participation de 43% au capital du groupe japonais. Nissan, lui, pourrait augmenter ses parts au capital du constructeur français, parts qui sont actuellement de 15%. Mais ce projet reste soumis à une condition fondamentale. L'État français doit donner son feu vert pour renégocier les fondements de l'accord franco-japonais, accord qui avait été conclu il y a maintenant 20 ans. Pour l'instant, Bercy, tout comme Renault et Nissan, a refusé de commenter ces rumeurs. Par contre, l'administrateur délégué de Fiat Chrysler Automobile, lui, a déclaré qu'il serait prêt à discuter à nouveau de ce mariage. D'après le Wall Street Journal, ces négociations, qui restent aujourd'hui à un stade préliminaire, pourraient aboutir dès septembre prochain. À noter que cette fusion, on le rappelle, elle permettrait de former un titan de l'automobile, le numéro 3 mondial.
Merci à vous Laura Combeau. Alors vous le disiez, Renault qui est allié à Nissan, mais il est également allié à Mitsubishi Motors. Mitsubishi Motors, dont la maison mère Mitsubishi Heavy Industries, a publié ses résultats trimestriels ce matin. Le groupe japonais a dégagé un bénéfice net en hausse de 3% sur un an, et ce grâce à une amélioration notable de son activité aéronautique, un redressement qui compense des résultats plus mitigés sur ses autres activités. Mitsubishi confirme malgré tout l'ensemble de ses objectifs financiers pour cette année. Toujours dans l'actualité entreprise, on a appris ce matin la démission surprise du directeur général de la banque HSBC, John Flint. L'annonce a été faite ce matin par HSBC, juste avant la publication de ses résultats du premier semestre. Des résultats pourtant positifs pour le groupe britannique, qui a publié un bénéfice avant impôt en hausse de près de 16% pour le premier semestre, à 12,4 milliards de dollars. Alors John Flint démissionne 18 mois seulement après sa prise de fonction comme directeur général, et ce départ serait lié à des divergences de points de vue sur la stratégie de la banque britannique dans un environnement mondial de plus en plus complexe et exigeant, selon les commentaires d'HSBC. En bref, le fonds d'investissement américain KKR va devenir actionnaire majoritaire du groupe de paiement Edelplay. KKR entend accompagner le développement international d'Edelplay, qui évolue dans un secteur en forte consolidation. Le Financial Times évoque un investissement de plus de 600 millions d'euros pour KKR. Et puis pour finir, premier bilan du tourisme en France. La fréquentation touristique a progressé cette année encore, canicule oblige. Les vacanciers se sont notamment tournés vers la montagne. Haussmann van der Dey.
L'Hexagone attire, c'est le bilan qu'on peut faire à mi-parcours des vacances d'été. La fréquentation touristique a augmenté de plus de 800 000 par rapport à juillet 2018. Cette année, c'est la montagne qui a été le plus plébiscitée avec une augmentation de 6%. En revanche, le bilan est moins bon du côté des plages avec une baisse pour la Méditerranée, par exemple, de moins 2 à moins 8%. Du côté du secteur hôtelier, ce sont les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui attirent les vacanciers. La côte Ouest, la Bretagne, la Normandie et le Nord ont profité de la canicule de juillet parce que les touristes ont décidé de leur voyage 48 heures avant de partir. Ils atteignent donc 79,1% de taux d'occupation au mois de juillet. En Ile-de-France, selon des chiffres du comité régional du tourisme, plus de 94% des professionnels jugent que leur activité est bonne. 6 sur 10 l'estiment même en hausse par rapport à 2018.
Et les chiffres du tourisme, justement, on y revient dans un instant avec Thierry Grégoire, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie saisonnière. Merci beaucoup Maëlle Laurent. On vous retrouve à midi et demi pour un nouveau point sur l'info économique du jour. Mais on disait, ce qui anime l'actualité économique du jour, eh bien, ce sont les marchés. Bonjour Grégoire Favet.
Bonjour Karine.
Bon, alors après ce vendredi grandement chahuté, nouvelle séance de correction aujourd'hui.
Oui, ça continue. La logique de correction est en place sur les marchés avec la réactivation de la guerre commerciale, bien sûr, et surtout la réponse de Pékin, vous en avez parlé, mais Pékin laisse filer sa devise au-delà de 7 yuan contre dollar. Alors ce niveau de 7 yuan contre dollar, ça parle pas au grand public bien sûr, mais c'est un niveau qui était surveillé de très près par les intervenants de marché. Jusqu'à présent, au cours des dernières années, Pékin avait toujours défendu le niveau de sa devise jusqu'à 7 yuan contre dollar. Ce niveau a été franchi ces dernières heures, accélérant une forme de déstabilisation des marchés. On l'a vu en Asie ce matin avec différents marchés asiatiques, les marchés chinois, bien sûr, Hong Kong, Shanghai, mais d'autres marchés en Asie, la bourse de Séoul notamment, ou encore la bourse de Tokyo, des marchés qui ont été un peu chahutés. On a perdu autour de 2%, 2,5% peut-être pour les plus fortes baisses ce matin en Asie. Et ces baisses-là, elles se répercutent évidemment sur les marchés européens cet après-midi. Pourquoi est-ce que l'Europe souffre également de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis? C'est toujours la même question, parce que les groupes européens sont évidemment exposés de manière significative aux marchés chinois. La guerre commerciale s'intensifie, il y a un risque de ralentissement plus prononcé de l'économie chinoise et donc les groupes européens en souffrent. Et puis si on bascule dans une logique de guerre d'échange, Pékin la devise, quelle va être la réponse des États-Unis? C'est peut-être l'Europe qui a le plus à y perdre, dans la mesure où la Banque Centrale Européenne a moins de marge de manœuvre que la Réserve Fédérale Américaine ou que la Banque Centrale Chinoise pour faire baisser sa devise. Et on voit d'ailleurs l'euro qui progresse aujourd'hui. On est remonté à 1,1150 pour 1 euro, 1,1150 pour 1 euro. La baisse du jour, donc, moins 1,75% actuellement sur le CAC 40. On a effacé tout le rebond du mois de juin. On retombe autour de 5250 points cet après-midi avec les valeurs les plus cycliques, les plus exposé à la Chine, évidemment. Encore une fois, on n'est pas du tout sur un crack estival, on est dans une logique de correction un peu appuyée. On perd maintenant 7% environ par rapport au pic de marché qu'on avait marqué le 24 juillet dernier sur le CAC à plus de 5650 points, 5268 points actuellement pour l'indice parisien.